Leçon 16. La France et ses immigrés.
1. Les immigrés parmi nous. Mon père était espagnol d'ascendance italienne et ma mère est née à Cuba. On peut me croire lorsque j'affirme que cela ne m'empêche nullement de me sentir français par toutes les fibres de mon être. Mieux, né et élevé, ainsi que mes deux frères, à l'ombre de la cathédrale de Reims, où étaient sacrés les rois de France, je n'ai jamais vu la moindre contradiction à parler espagnol à la maison tout en poursuivant ma scolarité, puis mes études en français. Cette double culture, ces deux langues maternelles, m'apparaissent, bien au contraire, comme une richesse. Elles expliquent, en tout cas, ma profonde conviction qu'une nation ne joue pas seulement son âme, mais beaucoup de son rayonnement futur dans sa capacité à accueillir l'étranger pour recevoir de lui autant que pour lui donner. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir combien d'immigrés de la deuxième génération se sont distingués dans notre pays. Qu'il s'agisse d'Yves Montand ou d'Isabelle Adjani, et qu'il soit aussi différent qu'Henri Krasucki et le cardinal Lustiger.
Parmi les 4 millions d'immigrés, en majorité maghrébins, que compte notre pays, combien pourraient aujourd'hui, et aussi sereinement que moi, s'enorgueillir de leur double culture ? Bien peu, sans doute, face à la vague de haine, souvent meurtrière, dont ils sont l'objet. Mais avant de dire en quoi ces hommes nous lancent un défi qu'il est capital pour nous de relever et quelle chance ils représentent finalement pour notre pays, il faut dissiper nombre d'idées fausses, voire de mensonges délibérés.
L'accueil des étrangers, ne l'oublions pas, est une vocation profonde de notre pays et celle-ci a largement contribué à notre histoire, à notre prospérité et à notre rayonnement passé. Avec le Canada et les États-Unis, la France est même la troisième puissance industrielle à avoir assimilé autant d'étrangers. Les statistiques prouvent que 18 millions de Français, soit plus du tiers de notre population, sont aujourd'hui des descendants d'immigrants de la première, de la deuxième ou de la troisième génération. Et ne parlons pas de notre histoire plus ancienne, qui n'est qu'une longue suite de métissages culturels.
En fin de compte, c'est l'avenir même de notre pays qui se joue selon que nous saurons ou non relever le défi que nous lancent les travailleurs immigrés. Sur un plan strictement démographique, leur départ serait une faillite. En 1983, et pour la 9e année consécutive, le taux de fécondité en France a été inférieur au seuil minimal de reproduction des générations. Le nombre des jeunes de moins de 20 ans est le plus faible de notre histoire. Même si les Français décidaient de faire plus d'enfants, il faudrait 20 ans pour compenser l'hémorragie que représenterait la perte des familles étrangères.
Mais le grand apport des immigrés n'est pas seulement démographique. Il aide aussi de nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à nous préparer à notre avenir. Chacun sait, par exemple, que c'est sa capacité à assimiler la technique et la culture occidentale, sans renoncer à sa culture propre, qui donne au Japon sa formidable énergie actuelle. De grands musiciens japonais se sont hissés au premier rang en interprétant notre répertoire classique. Imagine-t-on un orchestre français interprétant de la musique chinoise Salle Pleyel à Paris ? Les États-Unis, pour leur part, doivent une partie de leur force de renouvellement au fait d'avoir une façade atlantique tournée vers l'Europe et une façade pacifique regardant l'Asie. Cette faculté qu'ont les Américains d'accepter ce qu'apportent les flots les rend ouverts au choc des cultures et des races.
Français, nous sommes naturellement portés à regarder de l'autre côté de la Méditerranée. Il faut que nos cultures s'offrent très largement l'une à l'autre, disait le général de Gaulle à propos de l'Afrique, sachant que le repli sur soi équivaut à un suicide. Notre grand historien Fernand Braudel ne dit pas autre chose lorsqu'il regrette que la France n'ait pas choisi une ville maritime pour capitale, Bordeaux, Le Havre, Nantes ou Marseille par exemple, car, explique-t-il, ce qui est important vient de la mer. Lorsqu'on sait la complexité des techniques modernes et combien l'économie mondiale rend aujourd'hui les nations solidaires, on comprend qu'il n'y ait plus place pour les nations orgueilleuses et repliées sur leur passé.
Voulons-nous épouser notre époque en nous offrant au monde, bien au-delà des problèmes humains que pose leur présence? Telle est bien en effet la véritable question à laquelle les immigrés nous obligent à répondre et, en fin de compte, la chance qu'ils nous offrent si nous sommes prêts à la saisir. Sélection du Reader Digest, décembre 1985.
2. La une de l'actualité. Après les premiers succès électoraux du Front National de Jean-Marie Le Pen, les dispositions officielles de 1984 limitant l'entrée en France de nouveaux immigrants, les marches des beurs, les rassemblements de SOS Racisme et le projet de réforme du Code de la nationalité proposé par le gouvernement de M. Chirac, la question de l'immigration n'a guère quitté la une de l'actualité.
En 1984, paraissent plusieurs ouvrages sur ce thème, parmi lesquels « Hospitalité française » de Tahar Ben Jelloun, « La fin des immigrés, le choc » d'Alain Criotré et « L'immigration, une chance pour la France » de Bernard Stasi. Écrits par des membres de l'actuelle majorité, ces deux derniers livres sont révélateurs de clivages qui peuvent exister sur cette question entre représentants d'une même sensibilité politique. En effet, si Alain Criotré et Bernard Stasi appartiennent tous deux à l'UDF, le premier affirme que la France subit une véritable colonisation de peuplement et se prononce pour l'assimilation des immigrés ou, à défaut, pour leur départ, tandis que le second voit dans leur insertion une chance pour la France.
Dans le même temps, la montée d'un courant hostile à l'immigration entraîne la création d'une association antiraciste qui prend pour nom SOS Racisme. Ce mouvement, animé par Harlem Désir, un jeune homme de 26 ans, né de père antillais et de mère alsacienne, devient rapidement célèbre grâce à un badge en forme de main ouverte qui porte le slogan « Touche pas à mon pote ». Le 15 juin 1985, il organise, place de la Concorde, une grande fête sur le thème « Viens prendre ton pied avec mon pote ». Cette manifestation, essentiellement un concert gratuit de musique pop, organisé avec le soutien du ministère de la Culture, rassemble près de 300 000 personnes pour ce que le journal Libération appellera la nuit blanche du grand remue-mélange. Presque simultanément paraît un nouveau livre intitulé « La préférence nationale, réponse à l'immigration » qui va bientôt devenir la bible de tous ceux qui sont hostiles à la présence en France d'un nombre important d'immigrés. Son auteur, Jean-Yves Le Gallou, est alors secrétaire général du Club de l'Horloge, un groupe de réflexion de droite. Il a, depuis, rejoint les sphères dirigeantes du Front National.
Opposé à la société multiraciale, au nom de l'identité française, Jean-Yves Le Gallou affirme la nécessité d'inverser le flux migratoire incontrôlé et d'assurer le retour des immigrés dans leur pays d'origine. Il estime que 2 millions d'étrangers non européens sont nés ou arrivés sur le territoire français depuis 1974, date à laquelle pourtant l'immigration a été officiellement suspendue. À ses yeux, cet accroissement de personnes sans qualification et d'origine culturelle et religieuse radicalement différente risque de signifier la fin de la France. En outre, l'octroi des droits politiques aux étrangers, comme certains le demandent, bouleversera les institutions françaises, menacera la concorde et la paix civile et minera la souveraineté nationale. Dans ce scénario catastrophe, l'enseignement sera l'un des secteurs les plus touchés, prophétise Jean-Yves Le Gallou. Ce à quoi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, répondra. Oui, les enfants de l'immigration peuvent réussir à l'école. Pourquoi pas des lycées franco-maghrébins? Un jour, ces enfants seront diplomates, généraux, ingénieurs ou techniciens.
Préférence nationale, antiracisme, en cette veille de l'été 1985, le combat idéologique est engagé. Mais ce n'est qu'un début avant le paroxysme de l'automne. Alain Kimmel, Vous avez dit France, à Hachette, 1987.
Vocabulaire.
Une ascendance.
Cuba.
Une fibre.
Une langue maternelle.
Un rayonnement.
Se convaincre de.
Un cardinal.
Maghrébin, maghrébine.
Sereinement.
S'enorgueillir de.
Être l'objet de.
Il est capital de faire quelque chose.
Dissiper.
Nombre de.
Délibérer.
Une vocation.
La prospérité.
Assimiler.
Un descendant.
Un immigrant.
Un métissage.
Se jouer.
Strictement.
Une faillite.
Consécutif, consécutive.
La fécondité.
Minimale.
La reproduction.
Compenser.
Une hémorragie.
Un apport.
Préparer quelqu'un à quelque chose.
Un musicien, une musicienne.
Se hisser.
Interpréter.
Un répertoire.
Un renouvellement.
Une façade.
Un flot.
Être porté à faire quelque chose.
Souffrir.
Un repli sur soi.
Équivaloir à.
Un suicide.
Un historien.
Maritime.
La complexité.
Solidaire.
Orgueilleux, orgueilleuse.
Replié sur.
Épousé.
Électoral, électoraux.
Le front.
Le front national.
Une disposition.
Limitée.
Un rassemblement.
SOS.
Le racisme.
Le code.
La nationalité.
Une immigration.
Une hospitalité.
Un clivage.
Une sensibilité.
L'UDF, l'Union démocratique française.
Une colonisation.
Le peuplement.
Se prononcer pour.
Une assimilation.
À défaut de.
La montée.
Hostile à.
Antiraciste.
Antillais, antillaise.
Alsacienne.
Un badge.
En forme de.
Le soutien.
Libération.
La nuit blanche.
Un remue-mélange.
Simultanément.
Intitulé.
Une horloge.
Une réflexion.
Une sphère.
Multiraciale.
Inversée.
Le flux.
Migratoire.
Incontrôlé.
Radicalement.
Un octroi.
Miné.
La souveraineté.
Un scénario.
Prophétisé.
Le paroxysme.
Il vaut mieux prier Dieu que ses saints.
Nouveau roi, nouvelle loi.
Lecture. Faut pas ternir l'image de la France. Le premier de ces mensonges est de laisser croire aux Français que les immigrés pourraient un jour rentrer chez eux. Ils ne le feront pas, pour l'excellente raison que leurs enfants, nés chez nous, n'ont plus d'autre pays. Quant à leurs parents, qui, pour plus de 79% d'entre eux, vivent chez nous depuis plus de 10 ans, les difficultés qu'ils connaissent ici ne sont rien comparées à celles qu'ils devraient affronter en retournant dans leur pays. Les renvoyer brutalement équivaudrait, d'autre part, à ternir à jamais l'image de la France et à nous déconsidérer aux yeux du tiers-monde, où nous devons maintenir notre présence culturelle et économique. Il faut donc tenir pour acquis que le nombre des immigrés ne diminuera pas très sensiblement dans les années à venir. Même si l'on encourage le départ de certains et que l'on renforce les contrôles aux frontières.
Encore faut-il prendre des mesures concrètes. Après l'ère des bidonvilles où s'entassaient les maghrébins et celle des HLM où la cohabitation avec les familles françaises s'avère souvent si difficile en raison de modes de vie parfois incompatibles, il faut aujourd'hui construire des logements mieux adaptés aux besoins réels des immigrés. Il faut aussi encourager leur accession à la propriété, celle-ci étant un facteur décisif d'intégration, et faire un effort vigoureux pour combler le retard éducatif des enfants. Le niveau socio-culturel des familles étant un élément déterminant du succès scolaire et donc de l'intégration. Bernard Stasi, sélection du Reader's Digest, décembre 85.
Vocabulaire.
Déconsidéré.
Le tiers-monde.
Sensiblement.
Un bidonville.
S'entasser.
Une cohabitation.
En raison de.
Incompatible.
Une accession.
La propriété.
Décisif, décisive.
Une intégration.
Comblée.
Le niveau socio-culturel.
Déterminant.